l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Les Sud-Coréens regardent les étrangers d'un air chaleureux plus qu'il y a 10 ans, excepté les Chinois. Un professeur sud-coréen a analysé notre regard jeté sur les étrangers en fonction de la nationalité à l'occasion de la Journée des Peuples Internationaux. Nous ouvrons notre édition du jour avec ce sujet. Restez branchés, à tout de suite. Le regard des Sud-Coréens sur les étrangers est devenu plus positif, sauf sur les Chinois. C'est ce qu'a publié Kim Seok-ho, professeur de sociologie à l'Université nationale de Séoul, lors d'un séminaire tenu le 20 mai à l'occasion de la Journée des Peuples Internationaux. Nous vous rappelons que cette journée a été établie afin de créer un environnement où les ressortissants coréens et étrangers vivent en harmonie. Le séminaire a été organisé par l'Institut de recherche sur les politiques d'immigration, MRTC, et l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, sur le thème des politiques d'immigration et d'intégration sociale. Le professeur Kim a analysé que par rapport à il y a 10 ans, les Sud-Coréens ressentent beaucoup moins de distance vis-à-vis des étrangers au niveau social, alors que leur regard vers les Chinois s'est refroidi. Selon lui, la distance ressentie par notre peuple avec les Asiatiques du Sud-Est, les Taïwanais, les Japonais, les Nord-Américains et les Européens a diminué en 2018 par rapport à 2008, alors que le score représentant le sentiment d'éloignement avec les Chinois a augmenté de 0,8 à 0,86. Ces chiffres sont calculés sur la base des questions telles que « Pouvez-vous accepter une telle nationalité pour votre invité ?» votre collègue, votre voisin, votre cousin ou encore votre famille. Un score proche de 1 indique que les répondants prendraient plus de recul. Son rapport se réfère aux analyses réalisées par le Centre de recherche de l'Université Sungkyunkwan et par l'Institut coréen d'administration publique. Il a souligné également que le regard sur les étrangers varie selon l'âge, le niveau d'éducation et de revenus de la population. Une personne dans la soixantaine n'éprouve pas de différence en fonction des nationalités, que ce soit chinoise ou européenne, tandis que les jeunes de 20 à 29 ans affichent un grand écart entre ces deux derniers groupes de nationalités, à savoir 0,71 points pour les Chinois et 0,32 points pour les Nord-Américains. En outre, les personnes qui ont étudié dans une université et ceux qui gagnent plus de 4 millions de won, soit environ 2 900 euros par mois, manifestent une grande différence entre les Chinois et les Nord-Américains et les Européens. Professeur Kim a déclaré qu'au cours de la dernière décennie, le nombre de migrants avait augmenté à grande vitesse dans la société coréenne, mais que la distance sociale ressentie par les Coréens vis-à-vis d'eux ne s'est n'était pas autant réduite, avant d'évoquer la nécessité de recherches approfondies et de l'élaboration de politiques pour réaliser la cohésion sociale. Diverses suppositions et rumeurs infondées se déversent sur Internet au milieu de l'enquête policière visant à révéler les détails sur la mort du regretté étudiant en médecine Son Jong-min au bord de la rivière Han. Certains internautes affirment que Son a été assassiné par son ami A, qui est resté avec lui dans le parc de Panpo, alors que d'autres défendent son innocence. Ils s'opposent sur des communautés Internet ou sur des forums de chat ouvert de KakaoTalk. Quelques youtubeurs qui traitent de ce sujet sensible dans leurs vidéos afin de gagner des vues et d'en tirer du profit sont visés par des critiques. Ceux qui soupçonnent qu'il s'agit d'une affaire de meurtre s'encouragent à chercher des preuves dans un groupe chat en libre accès. Celui-ci a été créé le 10 mai et a dépassé à un moment les 1000 participants. Ils présentent non seulement leurs opinions, mais aussi incitent leurs partisans à organiser des rassemblements commémoratifs et à signer une pétition nationale soumise à la Maison Bleue. Dans une autre agora sur la même messagerie, des allégations apparaissent et que le manque de fiabilité de l'enquête des policiers. Ces revendications se développent et se reproduisent avec certains youtubeurs qui parlent des questions politiques en général. Une chaîne avec 1,4 million d'abonnés qui diffusait des émissions contre le gouvernement a obtenu plus de 1 million de vues avec une trentaine de vidéos liées à ce récent scandale mis en ligne à partir du 11 mai. Nox Influencer, un site d'analyse statistique de cette plateforme de vidéos, a estimé les revenus de cette chaîne en question du 11 au 20 mai à environ 39 millions de won, soit 28 030 euros au maximum. À l'opposé de cette force, il y a de plus en plus de citoyens qui protestent contre l'acte de définir cet accident comme une affaire de meurtre. Quelques 600 personnes qui veulent protéger l'ami de Sun se réunissent dans un groupe chat sur KakaoTalk. Le modérateur de ce forum a déclaré craindre que les attaques contre l'ami de la victime se poursuivent, même si la police clôture son enquête en le définissant comme une mort suite à un faux pas. Il a ajouté qu'il dénonce toutes les spéculations sans fondement. Rappelons que le défunt étudiant a disparu après avoir bu avec A aux alentours de l'embarcadère des bateaux-taxis du parc de Pampo Hangang de 23h le 24 mai à 12h du matin le lendemain. Il a été retrouvé mort dans les eaux de la rivière, non loin du lieu de la disparition le 30 mai, soit 5 jours plus tard. Le résultat de l'autopsie conclut à une mort par noyade. La police concentre ses efforts sur les images des caméras de surveillance, les témoins et l'analyse de la terre retrouvée dans les objets de son. Les Sud-Coréens à haut niveau d'éducation et à revenus élevés ont tendance à utiliser des forfaits mobiles qui offrent des données illimitées. Plus leur niveau d'éducation et de revenus sont élevés, plus ils s'abonnent à un plan de données illimitées de téléphonie mobile. C'est ce qui a été observé selon une enquête menée par l'Institut de politique de l'information et de la communication KISD. Les chercheurs ont établi une statistique auprès de 8 597 utilisateurs de smartphones inscrits au forfait de data illimité pendant 2 ans en 2019 et 2020. Selon le KISD, 31,8% des utilisateurs de smartphones ont souscrit à un plan de données sans limite l'an dernier et 68,2% ont opté pour des forfaits mensuels généraux. Par niveau d'éducation, un peu plus de 56% des étudiants de master ou des étudiants diplômés d'un master, autrement dit, ceux qui étudient après le bac plus 4 ont utilisé le plan de données illimité. Environ 44% des diplômés universitaires sont des utilisateurs du réseau Internet mobile sans limite de quantité, 28% des diplômés du secondaire, 12% des diplômés du collège et 7% des diplômés du primaire. Les chercheurs ont rappelé que le groupe de population le plus éduqué, soit les étudiants en master ou des titulaires d'un diplôme d'études supérieures, occupe la part la plus petite de toute la population et qu'ils sont de gros consommateurs d'Internet ou censés en avoir besoin en énorme quantité. En termes de revenus, le pourcentage d'utilisation du plan de données illimité parmi la tranche de revenus de 5 millions de won ou plus par mois en 2020 était le plus élevé, à savoir 55,6%. La tranche de revenus de moins de 500 000 won, soit environ 363 euros par mois, comprend 13% d'utilisateurs de ce type de forfait. Selon le rapport du KISD, parmi les abonnés au forfait illimité dans le courant de l'année dernière, 35,7% sont des hommes et 28,2% sont des femmes. Le groupe d'âge qui utilise le plus ce service est dans la trentaine et représente plus de la moitié.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Guy Mongeux, c'est lundi 24 mai. Vous n'aurez plus besoin d'enlever vos chaussures ni votre chapeau au contrôle de sécurité dans les aéroports. Des chercheurs dans le domaine des technologies de télécommunication et une PME sud-coréenne vont mettre au point des ondes électromagnétiques prometteuses qui vont être introduites dans les portiques de détection. Ils prévoient le développement d'un prototype utilisant l'onde terahertz d'ici 2024. L'Institut coréen de recherche sur l'électronique et les télécommunications ETRI a annoncé le 20 mai qu'il collaborait avec Demian TS, DMTS, afin de mettre au point une technologie de contrôle de sûreté. Une onde terahertz désigne une onde électromagnétique qui vibre 100 000 millions de fois par seconde. On l'appelle l'onde électromagnétique de rêve car elle pénètre les vêtements et les chaussures, mais elle est inoffensive pour le corps humain avec sa faible énergie. Cette nouvelle technologie qui sera inventée par l'équipe de recherche permettra d'inspecter des substances dangereuses avec une haute résolution d'image, telles que des armes ou des explosifs, sans nécessiter aux passagers d'enlever leurs chaussures ou leurs chapeaux lors des contrôles de sécurité dans des aéroports. Les chercheurs coréens développeront également une technologie pour déterminer rapidement si une personne a une substance dangereuse ou non à travers une reconnaissance d'image par l'intelligence artificielle de manière sans contact. Il vise à créer un prototype d'ici 2024 avant de le tester à l'aéroport international de Incheon et d'obtenir une certification nationale la prochaine année. Park Kyung-hyun, le chef de la division de recherche sur les sources futures de l'ETRI, a déclaré qu'ils élargiront ce système à celui de walk-through, à savoir que quand les piétons traversent un tunnel, le contrôle de tout le corps est achevé automatiquement à la sortie. Les plaques de stations de métro à Séoul afficheront davantage de noms d'entreprises ou d'institutions situées aux alentours des sorties. Seoul Métro, l'entreprise publique de transport de Séoul, lancera à partir du second semestre cette année un projet d'appellation des stations sur les lignes 1 à 8. Il s'agit d'inscrire sur les plaques signalétiques le nom des sociétés ou des organisations à proximité des stations du métro comme un second nom à titre onéreux. En fait, ce projet a débuté en 2016 dans le but de répondre aux demandes des entreprises d'enregistrer leurs enseignes sous le nom des stations. Et au final, 26 stations portent un tel deuxième nom. Il a pourtant été suspendu depuis la fusion de Seoul Metro Corporation, qui mettait en service des lignes 1, 2, 3 et 4, et SMRT, Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation, qui opérait les lignes 5, 6, 7 et 8. La reprise de cette activité apporte des bénéfices à deux parties. Les entreprises peuvent faire la communication publique et la régie du métro de Séoul peut combler ses déficits en se procurant des sources de revenus stables. Depuis de nombreuses années, elle accumule chaque année plusieurs centaines de millions d'euros de déficits et la situation s'empire parce qu'elle connaît une chute de revenus provenant du service de transport en raison de la crise sanitaire actuelle. Kim Sang-bom, le patron de Seoul Métro, a expliqué que ce projet de désignation des stations de métro, en échange d'un paiement des organisations publiques et privées, est considéré comme un moyen de tirer de nouveaux bénéfices afin de surmonter des difficultés financières. Il veut inciter la participation des entreprises ou des institutions qui veulent profiter d'un effet publicitaire relativement élevé par rapport au prix qu'elles doivent payer. La sélection des noms passe par un appel d'offres ouvert. Les candidats doivent se situer dans un rayon de 1 km entourant la station cible et ceux qui sont à l'intérieur du diamètre de 500 mètres seront prioritaires. Les soumissionnaires retenus peuvent marquer le nom de leur choix sur la station pendant 3 ans et prolonger seulement une fois. Si plusieurs candidats ont proposé un même montant de l'offre, la priorité revient dans l'ordre à des institutions d'intérêt public, des écoles, des hôpitaux, des entreprises et des installations polyvalentes. La première vaccination de Pfizer contre l'infection au Covid-19, ciblant les personnes âgées de plus de 75 ans, a repris le 22 mai dans certains centres de vaccination. Les centres qui se concentraient sur la deuxième vaccination, en fonction de l'offre et de la demande du vaccin, augmentent le nombre des premières vaccinations à partir d'aujourd'hui, après la période de préparation ce week-end. Ainsi, le taux de vaccination devrait bondir rapidement. Au centre installé dans la gym de Pomné, dans la ville de Chuncheon, une foule a formé une longue queue une heure avant son ouverture, vers 8 heures du matin. Ils attendaient avec un air plutôt nerveux. Monsieur Song, âgé de 78 ans, est venu se faire vacciner, malgré sa difficulté à se déplacer, en espérant que tout le monde enlève le masque et se réunisse ensemble très prochainement. Une dame âgée de la cinquantaine qui a amené sa vieille mère de 99 ans a confié qu'elle s'inquiétait des effets secondaires du vaccin, mais qu'elle pensait quand même qu'il valait mieux la faire vacciner. Dans la ville de Chuncheon, un peu plus de 40% des personnes éligibles à la vaccination se sont fait inoculer. À Gwangju, la première vaccination a été réalisée dans 2 gymnases situés dans les districts du sud et du nord. Les candidats à la deuxième vaccination étaient nombreux. Les sujets de la première dose ont rempli un questionnaire, effectué une identification et subi un examen préliminaire avant de se faire vacciner. Après l'inoculation, ils ont passé un certain temps pour observer s'ils ont des effets indésirables. Alors que la reprise de la vaccination de la première dose a été annoncée, les demandes des personnes âgées affluent dans des centres médicaux municipaux selon les autorités sanitaires. La ville de Gwangju a réussi à administrer la première dose à plus de 60% de ses citoyens seniors de plus de 75 ans qui ont donné leur consentement. La plupart des autres centres du pays ont commencé à étendre la prime aux vaccinations de Pfizer à partir d'aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Notre première destination est l'Inde, qui a réclamé aux réseaux sociaux d'effacer les publications contenant le terme « variant indien ». Selon l'agence de presse Reuters, le ministère indien des technologies de l'information a justifié cette demande par le fait que l'Organisation mondiale de la santé désignait le variant comme B1617 et que l'utilisation de cette appellation nuit à l'image du pays. Ce variant du virus hautement contagieux a été découvert en Inde en octobre dernier et il a été depuis détecté dans 44 pays. Cependant, cette requête semble avoir peu de chances d'être subie. Un responsable d'un réseau social a affirmé que plusieurs centaines de milliers de contenus comportaient le mot « variant indien » et que cette mesure risquait d'être considérée comme une censure. Jusqu'à présent, les variants du Covid-19 ont été toujours appelés avec le nom du pays où ils ont été identifiés pour la première fois, comme les variants anglais, brésiliens et sud-africains. Déplaçons-nous à Taïwan, qui est la destination la plus plébiscitée des expatriés pour la troisième année de suite. C'est ce que nous apprend une enquête du site InterNation menée auprès de plus de 12 000 ressortissants étrangers. Selon le résultat, l'État insulaire a pris la tête dans les catégories de la qualité de la vie, de la recherche d'emploi et de l'environnement du travail. 85% des sondés vivant à Taïwan étaient contents de la stabilité de leur emploi et de l'économie taïwanaise. Ensuite, 96% des expatriés se sont dit satisfaits de la qualité du système médical. Dans ce pays, les travailleurs étrangers profitent de la même couverture santé que les Taïwanais. Un autre point remarquable, aucun interrogé n'a répondu qu'il était mécontent de la sécurité publique. Par ailleurs, 96% ont estimé que les Taïwanais étaient favorables aux étrangers. Nous nous dirigeons maintenant en Thaïlande, où les chiens renifleurs se baladeront bientôt dans les rues de Bangkok afin de détecter les personnes atteintes du COVID-19. Selon le quotidien The Nation, la faculté de médecine vétérinaire de l'université Chulalongkorn entraîne 6 labrador retrievers à reconnaître le virus à travers l'odeur de la transpiration. Ceux-ci sont capables de dépister les individus contaminés à un taux d'exactitude de 94,8%, même s'ils sont asymptomatiques. D'après le ministère thaïlandais du Développement social et de la Sécurité humaine, ces canidés effectueront leur mission également dans les aéroports, les ports, ainsi que pour les patients hospitalisés. Miss Univers est devenue une occasion pour faire passer des messages politiques. À en croire la radio publique américaine NPR, lors de ce concours international de beauté qui s'est récemment clôturé, la candidate birmane Tuzar Winteluin a défilé avec une tenue traditionnelle et a brandi le message « Priez pour la Birmanie » en rappelant la répression des citoyens qui protestent contre la junte militaire. Miss Singapour, Bernadette Bellon, a quant à elle porté une cape sur laquelle était écrit « Stop à la haine contre les Asiatiques ». Une démarche pour sensibiliser aux crimes anti-asiatiques qui se sont multipliés sur fond de COVID-19. La représentante ukrainienne Lola de Los Santos a sensibilisé les spectateurs aux droits des minorités sexuelles. Notre voyage de cette semaine prend fin en Chine. À Shenyang, dans le nord-est de la Chine, un livreur de colis chinois s'est récemment retrouvé bloqué dans un complexe d'appartements. Étant donné qu'une infection au COVID-19 a été détectée aux alentours, la zone où il se travaillait a été confinée. Plus de 4000 habitants ont été contraints de rester sur place, y compris le chinois de 32 ans qui réside seulement à 5 minutes à pied. Le livreur s'est donc installé dans une tente que sa femme lui a apportée et s'est nourri d'aliments offerts par les riverains. 3 jours plus tard, le bureau de gestion des appartements lui a proposé une résidence plus confortable. Cette mesure de confinement draconienne est considérée comme essentielle pour la prévention du COVID-19 dans l'Empire du Milieu.
Voilà, ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Kim Hong-ju au micro avec Oh Ayang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.